Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Dernières épreuves avant l'arrivée de notre écrivain à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le chemin devient moins sauvage et la modernité reprend ses droits. Nous sommes à Lavacolla. Je me souviens d'un port au Pays Basque, Castro Urriades, que j'avais atteint au bout d'une semaine de marche pénible. Un couple de Français avait lié conversation avec moi dans un restaurant. Nous avions découvert que, comme moi, étions partis du même point, Hendaye. La différence, car ils voyageaient en voiture, était qu'ils avaient quitté cette ville 2 heures avant. Ce fut ma première expérience du curieux sentiment qui habite le pèlerin. Être un infiniment petit et chérir cette humilité au point d'y voir presque un péché d'orgueil. Après les ruisseaux de Lavacolla, le chemin monte doucement dans les eucalyptus. La prochaine étape annoncée, plus lointaine qu'on ne le croit, est le célèbre Monte del Gozo. C'est le mont de la joie, parce que, à son sommet, on découvre au loin les toits rouges de Compostelle. Inconsciemment, le marcheur presse le pas. Il croit à tout instant arriver au sommet de la côte. Mais ce n'est pas encore là. Il repart, s'épuise, désespère. En attendant, il rêve et imagine que ce fameux sommet est un belvédère alpin d'où l'on embrasse tout le paysage jusqu'à l'horizon. Quand, enfin, en nage et presque découragé, il atteint le haut du fameux mont, il cherche en vain la joie, car le lieu est loin d'être grandiose. C'est une colline morose, plantée de hauts arbres qui cachent la vue. On aperçoit quelques toitures au loin, entre leurs feuilles, mais rien de spectaculaire. Au flanc du Monte del Gozo, un immense refuge à la taille des foules qui marchent sur le chemin français constitue une halte très fréquentée. Surtout, un monument gigantesque a été érigé au point culminant. Il est une règle qui ne souffre pas d'exception. Chaque fois qu'un projet artistique est soumis à l'arbitrage d'un grand nombre, la banalité et la laideur prévalent. La collégialité en matière artistique, c'est l'eau tiède. Peut-être certain que beaucoup de gens ont été consultés pour l'érection de la statue qui orne le Monte del Gozo, car il est difficile de concevoir plus laid, plus prétentieux et plus décourageant. On pourrait considérer que c'est un chef-d'œuvre, à condition de le faire concourir dans un genre bien particulier, celui du kitsch catholique. Ce monument a au moins un mérite. Aux pèlerins qui avaient pu, pendant sa longue marche, rêver d'un retour au Moyen-Âge et imaginer que le sanctuaire en serait l'apogée, il fournit un clair démenti. C'est bien au XXIe siècle que l'on est. Compostelle n'est plus la simple grotte au fond de laquelle ont été découvertes des reliques. C'est une métropole d'aujourd'hui, avec ses monuments hideux, ses grandes surfaces et ses voies rapides. Arriver à Santiago, ce n'est pas rejoindre les temps antiques, mais au contraire, revenir brutalement et définitivement au présent. Les pèlerins à vélo que l'on avait croisés de loin en loin semblent se concentrer au Monte del Gozo et c'est au milieu du peloton que l'on entame l'ultime descente vers la ville. Autant, sur le chemin, la bicyclette m'était apparue comme un instrument superflu, voire déplacé, autant, à l'approche de Saint-Jacques, elle se révélait utile et très adaptée, car l'entrée dans la ville est un calvaire pour le marcheur. La cité supposée accueillir les pèlerins semble avoir donné une complète priorité aux voitures, aux autocars, aux camions et autres engins motorisés. Il est toujours étrange de penser que des gens vivent à longueur d'année dans des lieux de pèlerinage. Lorsqu'on évoque la Mecque, par exemple, on a à l'esprit l'image de la Kaaba autour de laquelle tourne la foule. Et il paraît curieux, voire incongru, d'apercevoir, sur certaines photos, des immeubles d'habitation avec des baies vitrées et des balcons qui donnent sur le sanctuaire. La Compostelle rêvée, celle qu'on a eu le temps d'imaginer au long du chemin, se réduit à la basilique et à la place de l'Obradoiro qui lui fait face. Mais quand on s'approche de la ville véritable et qu'on y pénètre pas à pas, on se trouve d'abord en face de concessionnaires Volkswagen, de supermarchés, de restaurants chinois. Une foule autochtone dans les rues vaque à ses occupations sans se préoccuper de l'apôtre. Son nom figure sur les enseignes, mais il semble n'être qu'une spécialité locale, comme le nougat à Montélimar ou la bêtise à Cambrai. Et finalement, lorsque l'on marche dans les rues avec son sac sur le dos et ses coquilles pendues dessus, on se sent aussi étranger que partout ailleurs. Je me demande même, et je le comprendrai, si les gens du cru n'en ont pas un peu assez de côtoyer des pouilleux à coquilles. En tout cas, ils ne leur prêtent aucune attention. Ils semblent même ne pas les voir. C'est peut-être d'ailleurs le signe suprême de l'arrivée. Lorsqu'il est encore loin de Santiago, et d'autant plus qu'il chemine dans des lieux où les pèlerins sont rares, le marcheur attire l'attention, suscite l'intérêt et parfois la sympathie. Quand il entre à Compostelle, il est devenu parfaitement invisible. On dirait qu'il a atteint l'état gazeux. D'ailleurs, dans la ville de l'apôtre, la présence des pèlerins est soigneusement canalisée. Elle se limite au long itinéraire balisé de coquilles qui s'enfonce vers la vieille ville. C'est peu de dire qu'il n'est pas accueillant. Cependant, si vous êtes parvenu à ne pas vous faire écraser en longeant des rocades à quatre voies, en coupant des échangeurs et en franchissant des viaducs sans trottoir, si vous avez réussi à traverser sans encombre un dernier boulevard circulaire, c'est décidément que l'apôtre veille sur vous. Vous atteignez alors la Puerta del Camino et vous pénétrez enfin dans le quartier historique, le centre monumental. Ne croyez pas pour autant que vous allez pouvoir goûter la joie sans mélange d'un retour poétique vers le passé. Car une maladie hautement contagieuse s'est répandue dans ces ruelles. Elle les défigure comme une lèpre, macule le front des maisons, s'insinue sous les porches, dans les impasses. Cette maladie, c'est la boutique de souvenirs. Il s'agit d'une activité commerciale très particulière, puisqu'elle est vouée à la vente d'objets strictement inutiles. Ils doivent de surcroît être bon marché, faciles à transporter et très laids. Généralement fabriqués en Chine, ces colifichets s'inspirent de l'histoire locale, dont ils reproduisent les symboles à l'infini. Inutile de dire que la coquille permet des variations ad nauseam. On la trouve sous forme de broches, d'écussons, de porte-clés, d'enveloppes de téléphone portable. Elle orne les sets de table, les gobelets en plastique, les colliers de chiens, les bavoirs pour enfants, les paillassons et les tabliers de cuisine. Avis aux amateurs, il y en a pour tous les goûts. Le pèlerin marcheur, et surtout s'il vient de loin, se sent plus seul et plus étranger que jamais dans ces boyaux touristiques. Car la foule qu'il croise, et qui se reconnaît elle aussi dans l'apôtre, ne lui ressemble guère. Elle est constituée dans son immense majorité par des personnes que l'on qualifierait partout ailleurs de touristes et qui revendiquent pourtant ici le titre de pèlerin. C'est à eux, visiteurs solvables, que s'adresse principalement l'offre de babioles des boutiques de souvenirs. Ces touristes venus en avion ou en car n'ont en effet d'autres ressources pour attester de leur éphémère qualité de pèlerin que d'acheter quantité d'objets qui prouveront leur passage à Saint-Jacques. Le pèlerin marcheur n'en a pas besoin, car il dispose, lui, d'un privilège. Il a droit à un diplôme, la fameuse Compostela, délivré très officiellement par la mairie. C'est souvent vers le bureau où elle s'obtient que se dirigent d'abord les nouveaux arrivants.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.